Dans l'émission du midi, on en jase. Il est présentement midi une minute. Sam Reinhardt vient de marquer un avantage numérique pour le Canada. Le Canada qui réduit l'écart de moitié, c'est 2-1 Finlande. Il y avait eu des buts de Mikko Rantanen en avantage numérique en première période. Et Erik Haula en désavantage numérique. Une superbe feinte devant Jordan Binnington en échappé du revers. Mais là, Reinhardt vient de redonner espoir au Canada. C'est 2-1. Il reste 4 minutes 53 à faire à la deuxième période. Mathias, on vit les mêmes... C'est une reprise du match de mercredi, c'est-à-dire qu'on est dans les mêmes émotions à la même heure. On va souhaiter être dans les mêmes émotions aux alentours d'1h20 tantôt.
Oui, ben c'est ça que je m'en allais dire. Le Canada, je pense qu'il veut nous faire vivre pas mal de sueur froide, oui, puis de stress, puis des bons coups cardiaques aussi. Là, on est sous pression. Il reste 4 minutes 30 environ à la deuxième période. On va espérer qu'ils réussissent à égaliser la marque avant la fin de la deuxième. Sinon, ça va être une troisième période stressante en maudit.
Vraiment, la Finlande qui joue très défensif, mais là, qui a la rondelle en zone adverse. Pour nous joindre, 418-971-1021 pour donner votre opinion. Vous savez, on aime toujours vous lire. Êtes-vous rivé au match? Si oui, vous êtes où? Êtes-vous à la maison? Vous dites, hey, j'ai dit à mon boss que je faisais du télétravail, mais finalement, je regarde le match. Bref, dites-nous, vous êtes où? 418-971-1021. On prend des présences avec nous. BLVD.fm, c'est la web radio. C'est aussi la meilleure place pour réécouter les meilleurs moments de l'émission. Notamment, hier, on a eu deux belles entrevues. Une avec Joël Lightbound, lieutenant du Québec et député de Louis Hébert au niveau du Parti libéral du Canada. Également, Gabriel Hardy, député de Montmorency, Charlevoix, du Parti conservateur du Canada. Ça se retrouve sur blvd.fm. BLVD 102.1, c'est l'application sur App Store, Google Play Store. Partout où vous êtes, si vous êtes sur la route présentement, vous ne pouvez pas regarder le match, on va vous tenir au courant du pointage. Twitch.tv/BLVD/FM. Vous êtes de plus en plus le midi à être avec nous. Merci beaucoup d'être là. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, car il y a plein de bons moments de l'émission qui se retrouvent là, notamment les caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi. Avant de faire le segment Farnell-Morissette-Lambert-Drainville, où on va entre autres revenir sur cette grosse décision de la Cour suprême d'annuler les tarifs de Donald Trump. Mathias, quelles sont les autres nouvelles dans l'actualité?
Bien, je commence avec une autre nouvelle de sport, parce que là, tous nos yeux sont rivés sur la partie du Canada contre la Finlande. On veut que notre équipe canadienne se rende en finale, mais pendant ce temps-là, la Québécoise Valérie Maltais a décroché sa troisième médaille aux Jeux olympiques présentement. C'est une bronze aux 1500 mètres en patinage de longue piste. Donc, félicitations à Valérie Maltais pour sa médaille. Là. Je pense que...
À 35 ans, c'est exceptionnel ce qu'elle fait.
On n'est pas des seuls à avoir manqué le moment où qu'on lui remet sa médaille en direct en raison de la partie, mais ça n'enlève pas moins du mérite pour la Québécoise. Ça a été annoncé aujourd'hui, ministre Simon-Jolin Barrette qui retire de son projet de constitution québécoise une clause controversée. On parle de la clause sur la protection de l'avortement. La raison de ça, c'est, il l'a décrit rapidement, là, c'est qu'il mettait cette clause-là dans le but de défendre le libre choix des femmes. Dans cette optique-là, s'il veut être cohérent, ben, il doit respecter celui-ci et donc retirer cette clause-là parce qu'on le rappelle, là, c'était demandé par les groupes féministes, par les juristes, par les médecins qui s'y opposaient fermement en disant que ça ouvrait une brèche pour les militants pro-vie. En parlant des médecins, les médecins spécialistes qui accentuent la pression pour faire débloquer des négociations avec le gouvernement québécois, on sait que ça traîne depuis maintenant plusieurs mois. Différents moyens de pression sont mis en place, notamment cesser des formations sur un dossier de santé numérique. Maintenant, ils arrêtent également de participer à des activités médico-administratives. Dans un avenir rapproché, on va même cesser d'offrir des rendez-vous par le biais des centres de répartition des demandes de services. On le rappelle, les négociations présentement, les demandes, le gouvernement qui veut augmenter la rémunération des médecins spécialistes de 11%, la demande des médecins qui est présentement à 14,5%. Et je termine avec la grosse nouvelle du jour, même si ça se passe du côté des États-Unis, ça nous affecte directement. C'est la Cour suprême des États-Unis qui a jugé que Donald Trump avait dépassé les pouvoirs prévus par la Constitution et donc invalidé des droits de douane sur la quasi-totalité des produits entrant aux États-Unis. En gros, quand on parle des droits de douane qui sont invalidés par la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui, on parle des droits de douane visés sur des pays en particulier. Donc, ces fameux droits de douane réciproques. Par exemple, au Canada, c'était 35% de tous les produits qui ne sont pas touchés par la CE. Donc, ça, c'est retiré. Par contre, tout ce qui est surproduit dans des secteurs en particulier comme l'acier, l'aluminium ou les automobiles, ça reste en vigueur.
Oui, on va en parler avec la présidente et directrice générale de Manufacturier Exportateur Canada pour la division Québec, Julie White, aux alentours de 12h30. Et c'est exactement avec ceci qu'on amorce la discussion Farnell-Morissel-Lambert-Drainville. Messieurs, comment allez-vous?
Moi, ça va très bien, mais je veux officiellement protester ma position dans le studio. Je suis le seul qui n'est pas capable de voir la télé d'où je suis assis. Alors vous êtes capable de voir le match et pas moi. Mais je suis content d'être ici pareil.
C'est parfait. Reste une minute 20 la deuxième période, donc tu vas être bon pour aller écouter la troisième après la chronique. C'est bon, ça? Lambert Drainville, j'imagine tes yeux rivés sur l'écran de télé en même temps que tu nous parles?
Les boys, malheureusement pour cette chronique, je ne pourrai pas participer. Je vais être là à l'écoute.
Non, mais elle tombe bien, la chronique. Il reste une minute en deuxième. On a juste un petit but du Canada dans la dernière minute.
Mais c'est correct, on sacrifie Farnell. Il peut pas voir.
Vous me le direz.
De toute façon, Farnell, je vais commencer avec toi. Gros jugement de la Cour suprême. Ça avait pris un certain temps, mais on vient renverser la décision de Donald Trump. Je veux parler avec toi. Je sais que tu as lu le résumé, donc un petit peu plus du côté juridique, puis on parlera du côté politique avec Lambert Drainville. Qu'est-ce que tu as vu là, dans cette décision-là?
Ben, parlons vraiment justement du côté juridique. Comme je disais, je n'ai pas lu la décision au complet. Elle a fait plusieurs pages, mais la Cour suprême des États-Unis met un petit résumé qui est officiel, qui vient de la Cour au début. Et essentiellement, ce n'est pas une énorme surprise pour ceux qui suivaient la situation. La décision, c'est que la loi qu'a invoquée le président Trump pour lui donner la capacité de faire des tarifs ne donne pas au président la capacité de faire des tarifs. C'est une loi qui date de 1976, je crois, qui disait essentiellement, puis les termes exacts, c'était que le président a le pouvoir de réglementer l'importation. Alors, le président disait, bien, réglementer l'importation, ça me donne le droit d'imposer des tarifs. C'était assez peu probable que cette interprétation allait tenir parce que les tarifs, c'est une forme de taxe et selon la Constitution des États-Unis, les taxes, le pouvoir appartient au Congrès. Alors, si le Congrès allait voter une loi pour donner au président la capacité d'imposer des taxes, il l'aurait fait explicitement. Il ne l'aurait pas fait en disant réglementer les importations. Alors, en gros, c'est ça. Moi, ce que j'en retire comme leçon en premier, c'est que, bon, bien, les contre-pouvoir aux États-Unis semble bien fonctionner. C'est quand même plusieurs juges qui ont été nommés par l'administration Trump qui se sont rangés contre l'administration Trump.
On disait que Trump avait la majorité à la Cour suprême, mais on vient quand même renverser sa décision.
Alors, c'est une bonne nouvelle là-dessus, comme on disait souvent. Les contre-pouvoirs sont là, mais sont ultimement plus puissants. Mais l'autre chose, je pense, la leçon à tirer là-dessus, c'est qu'il faut faire vraiment attention quand les démocraties donnent des pouvoirs discrétionnaires au pouvoir exécutif, que ce soit le président aux États-Unis ou dans des démocraties parlementaires, un premier ministre, parce que ces pouvoirs-là restent longtemps et on ne sait jamais quelle interprétation un futur chef d'État va pouvoir décider de s'essayer d'en faire pour utiliser pour éventuellement être obligé de passer par un long processus judiciaire pour se faire contrôler. Il reste plusieurs autres lois discrétionnaires qui existent aux États-Unis. Il y a plusieurs autres points d'accroche que le président pourrait utiliser qui ont juste assez de légitimité pour pouvoir essayer de réimposer ces tarifs-là. On verra si l'administration Trump va sauter là-dessus.
Lambert, côté politique, j'aurais le goût de te lancer avec cette phrase-là. Le roi n'est plus roi, il ne pourra plus faire tout ce qu'il entend faire.
Ouais, je n'abonderai pas dans le même sens que toi, mon cher Jeff.
OK, si vas-y donc.
Si on a porté attention aux commentaires de la Maison-Blanche à travers leurs différents membres, les membres de l'administration au courant des dernières semaines, des derniers mois, on sait qu'ils ont l'intention, si la décision qui a été rendue aujourd'hui allait dans le sens où elle est allée, ben qu'ils allaient trouver n'importe quelle autre façon d'imposer ces tarifs-là, puis de trouver d'autres façons d'en arriver au même but. Fait qu'au niveau de la stratégie globale de l'administration Trump, moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. Faut quand même dire, par contre, que ces tarifs-là, et au-delà des tarifs eux-mêmes, la possibilité, la menace de Trump de les instaurer immédiatement, sans restriction, pour pratiquement aucune raison, ben, c'était au cœur de sa stratégie politique, de son deuxième mandat. C'était un outil pour lui de contraindre les entreprises étrangères, entre autres, à venir s'installer aux États-Unis, ouvrir l'accès au marché étranger pour les entreprises américaines, mettre de la pression même sur différents pays afin qu'ils, des fois, mettent fin à des conflits internationaux. Fait qu'au final, c'est un outil vraiment pour lui qui lui permettait d'affirmer sa puissance politique à l'échelle mondiale. Et là, ben, c'est un gros morceau de sa politique budgétaire aussi. C'était l'outil principal qu'il utilisait pour compenser les baisses d'impôts qu'il a mis en place, très, très coûteuse baisse d'impôts. Et donc là, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Ben, d'abord, qu'est-ce qui va arriver au niveau des entreprises? T'sais, est-ce que le gouvernement va devoir rembourser ces sommes-là? C'est pas nécessairement... on n'a pas la réponse présentement. Si oui, ce sera de quelle ampleur? T'avais déjà des centaines d'entreprises américaines là, avant même le jugement qui s'étaient préparées à demander le remboursement.
Oui, puis c'est 25 milliards qui ont été perçus en tarifs, si je me trompe pas pour le chiffre, et c'était seulement 250 milliards, c'est ça. Et c'était seulement 200 millions qui provenaient de l'extérieur. Donc, ça veut dire que c'est 249,8 milliards de dollars qui ont été payés par des entreprises américaines.
Écoute, je suis pas certain là, de tout ça, je peux pas te confirmer ça, mais moi ce que j'ai comme chiffre, c'est 250 milliards perçus en droits de douane en 2025, dont environ la moitié était des tarifs basés sur la loi de 77, la loi dont il est question présentement. Fait qu'on parle de la moitié de 250 milliards, c'est quand même des sommes colossales. Et là, bon, c'est une victoire judiciaire, donc point de vue judiciaire, je suis d'accord avec toi, c'est une victoire pour ceux qui jugeaient que l'administration Trump allait beaucoup trop loin. Maintenant, pour les entreprises, en commençant par les entreprises américaines, ben au-delà de la décision, juridique et sa signification morale, disons ça comme ça, ça demeure quand même que c'est des entreprises qui vont devoir s'équiper, vont devoir se prémunir d'équipes d'avocats puis d'aller devant les tribunaux s'ils veulent avoir une contestation. Fait que déjà, c'est pas nécessairement un processus qui est automatique et qui est simple. Et c'est surtout que ça les ramène dans une situation d'incertitude. Puis c'est ça qui est le plus dommageable pour moi dans tout ce qui se passe depuis que Trump est au pouvoir. Mais là, le mauvais côté de cette décision-là ce matin, c'est que ça ramène de l'incertitude pour les entreprises américaines qui s'étaient adaptées aux droits de douane. Puis là, ils ignorent qu'est-ce qui va remplacer ça. Comme je te disais en début d'intervention, l'administration Trump va chercher par tous les moyens d'en arriver au même but. Et donc là, pour ces entreprises-là, c'est de voir qu'est-ce qui va être invoqué comme raison pour la suite, puis comment ça va les impacter. Puis pour les entreprises étrangères comme les entreprises québécoises puis canadiennes, c'est un petit peu la même chose. C'est une victoire morale, mais encore une fois, on ravive l'incertitude pour ces entreprises-là, puis ça vient compliquer encore une fois leur prise de décision au niveau de leurs investissements, l'approvisionnement, et la suite des choses.
J'ai hâte de voir ce que Julie White va nous dire là, comme présidente et directrice générale de manufacturier exportateur. Farnell, est-ce que c'est le temps pour les démocrates de s'organiser enfin? Parce que là, il y a des belles opportunités qui s'ouvrent avec ce jugement-là, avec les mi-mandats qui approchent. Est-ce que tu t'attends à voir des démocrates plus agressifs aux États-Unis face à Donald Trump?
Je pense pas que ça va changer tant que ça, le plan de match des démocrates. Les démocrates commencent à s'organiser depuis longtemps. Ils sont en train de le faire. Mais le coup pour les démocrates va être aux élections de mi-mandat en novembre. C'est sûr que peut-être qu'en privé, ils s'en réjouissent. Peut-être qu'en privé, ils sont contents de voir que la Cour suprême est encore fiable. Mais ça change pas leur calendrier, non.
Ça changera pas leur calendrier. Change de sujet, messieurs, et je m'en vais au Québec avec Simon Jolin-Barrette qui a finalement retiré l'avortement du projet de constitution. Lambert, tous les indicateurs nous amenaient vers là, d'un avec les groupes qui faisaient pression et de deux avec autant les deux candidats à la chefferie, Christine Fréchette et Bernard Drainville, qui étaient à l'encontre justement de mettre l'avortement dans la constitution.
Ouais, alors on en a parlé souvent, Jeff, de la population. Hein? La population, lorsqu'elle se mobilise et lorsqu'elle fait pression sur le gouvernement, c'est avec l'ampleur qu'on a vue pour l'article 29 du projet de loi constitutionnel, ça fait une différence. Là, les gouvernements sont à l'écoute, particulièrement au Québec, quand la pression populaire est si grande que ça. Et c'est la bonne décision, Jeff. Je veux dire, déjà que ce projet de loi-là est tellement contesté, puis on en a parlé avec Farnell, je pense que tout le monde s'entend. Au-delà de « t'es-tu d'accord avec ce que le projet de loi contient ou pas », qu'il y a eu peut-être un manque de consultation en amont pour ce projet de loi-là. Donc déjà, le projet de loi était hyper contesté. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un entêtement à vouloir aller de l'avant avec cet article-là. Je pense qu'il n'y a personne qui doutait du bon vouloir du ministre, qui a encore mentionné dans sa lettre ouverte dans le Journal de Québec ce matin, son inquiétude de voir le Québec reculer au niveau du droit à l'avortement quand il voit ce qui se passe avec les projets de loi conservateurs privés au fédéral quand tu vois des renversements comme Roe versus Wade aux États-Unis. Et donc, personne doutait de son bon vouloir. Alors, du moment que personne doute de ton bon vouloir, mais que tout le monde te dit, ben écoute, c'est peut-être juste une mauvaise bonne idée, je comprenais pas pourquoi il gaspillait autant de capital politique pour un enjeu où, ben honnêtement, on est tous convaincus. Tout le monde s'arrange du même côté, tu sais. Fait que j'étais comme. Dans ma tête, je me disais, tu sais, Jeanlin Barrette, c'est peut-être mieux de garder ses munitions là, pour le reste de son projet de loi. Et c'est visiblement il s'est visiblement lui aussi rendu à l'évidence. Il prend la bonne décision aujourd'hui.
Vous êtes dans le segment discussion Farnell, Morissette, Lambert, Drainville. On prend les différents sujets principaux de l'actualité de la journée. Vous mentionnez que la deuxième période est terminée entre équipe Canada et la Finlande. C'est 2-1 Finlande après deux périodes de jeu. Le Canada qui a le double de tirs au but de la Finlande. La Finlande qui se défend tant bien que mal après avoir pris les devants 2-0. Farnell, le projet de constitution, normalement, c'est un projet où on va être à livre ouvert avec les autres partis politiques. Ça va être des discussions entre les différents partis qui vont amener à ce projet de constitution. Là, François Legault en avait fait un cheval de bataille lorsqu'il est revenu à l'automne et qu'il a tenté le tout pour le tout. Est-ce qu'on l'avance encore, ce projet-là? Parce qu'on est à l'approche des élections. On n'a plus de chef du côté de la CAQ. On va en avoir un nouveau le 12 avril. T'sais, je trouve ça bizarre qu'on continue à travailler là-dessus du côté du gouvernement.
Je l'ai dit souvent, je pense que, puis Lambert là, il a fait allusion aussi, je crois que ce projet de loi-là souffre d'un énorme déficit de légitimité.
Oui, hein?
Le gouvernement a le pouvoir légal de faire ça. Ça, je veux dire, bon, il y a peut-être des théories constitutionnelles comme de quoi ça va à l'encontre de certains principes de droit internationaux. Je laisse ça aux experts là-dedans, j'en suis pas un. Je crois qu'en droit interne québécois, le gouvernement a le pouvoir de faire ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a la légitimité de le faire? Je crois pas. Je pense que, comme Lambert le dit, c'est quelque chose qui a été fait clairement sans une très grande consultation. Avoir consulté son propre gouvernement, le ministre de la Justice aurait pu réaliser qu'il y a à peu près 2 ans et demi, son gouvernement avait proposé un projet de loi très similaire et tous les groupes de droits des femmes, des groupes de droit à l'avortement s'étaient présentés à l'Assemblée nationale pour dire « faites pas ça et voici pourquoi ». Et les revoici 2 ans plus tard à être obligés de faire exactement la même chose pour avoir exactement le même résultat. Il n'y a pas énormément de consultations là-dessus, mais je me demande, j'ai l'impression de voir, malgré que je crois à la bonne foi du ministre de la Justice, là, je pense qu'il agit avec des bonnes intentions, c'est juste qu'il y a peut-être un déficit de consultation. Je crains qu'on fait faire une espèce de paratonnerre en politique. Puis un paratonnerre en politique, c'est quand on va intentionnellement sacrifier un élément d'un projet politique, que ce soit un projet de loi quelconque ou autre chose, qui attire la foudre, qui attire de l'attention négative, dans le but de pouvoir le sacrifier pour sauver le reste du projet. Mmh. Alors là, ma crainte, c'est que Simon Jeanlin Barrette va se présenter au peuple, dire « Regardez, je vous ai écouté, regardez comme je suis raisonnable, j'ai retiré la proposition qui était controversée, nous avons donc eu une consultation, il n'y a pas de problème, maintenant tout est beau, on opère avec le consentement du public, quand il reste encore d'autres gros problèmes à l'intérieur de ce projet de loi-là, il fait reculer les droits autochtones. »
As-tu des exemples?
Ben oui, il fait reculer les droits autochtones, il limite énormément la capacité du peuple québécois d'utiliser son argent collectif pour contester les lois qui vont être passées par une simple majorité à l'Assemblée nationale. Et j'en passe, il y en a plusieurs. Alors, et en plus, c'est un projet de loi, une constitution est supposée être le contrat d'utilisation du pouvoir entre le peuple et son gouvernement. Et le gouvernement est essentiellement en train de changer le deal sans nous. Tout ça, ça reste des problèmes actifs. Alors oui, c'est une bonne nouvelle qu'il y a eu un recul sur des problèmes liés à l'avortement, mais ça ne change pas le déficit de légitimité de l'entièreté du reste du projet de loi. Puis j'espère qu'on ne va pas oublier, parce qu'il y a eu un petit gain là, qu'il reste énormément de travail à faire sur l'autre bord.
Vous rappelez que Valérie Malta a remporté une médaille de bronze au niveau du patinage de longue vitesse. On vient de le voir à la télévision. Superbe réaction. 3e médaille pour elle dans ces Jeux olympiques à 35 ans. Lambert, est-ce que tu es d'accord avec ce que Farnell apporte?
Est-ce que je suis d'accord avec le fait qu'il y a possiblement d'autres améliorations à apporter, particulièrement par rapport aux droits des premiers peuples? Oui. Est-ce que je suis... Dans le fond... Je m'entends sur l'essentiel de ce que Farnell dit, mais c'est sur la finalité, moi, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Le projet de loi, je l'ai lu et je comprends, notamment l'article 29, qu'il y avait des questions qui se posaient. Il y en a encore qui demeurent en suspens. Les consultations ont eu lieu, puis le ministre va réfléchir à tout ça. Puis si ça ne fait pas l'affaire des gens, il y aura l'occasion de continuer à protester puis de mettre de la pression sur le gouvernement. On a vu que ça a eu un résultat probant, comme je viens de le dire, pour l'article 29. Mais moi, à un moment donné, là, tu sais, la question de la Constitution, là, on en a déjà parlé, elle est sur les lèvres de tous les partis politiques qui se sont enchaînés au pouvoir et dans l'opposition au Québec depuis 30 ans. Tu sais, fait que de dire on n'a pas consulté, on n'a pas assez discuté, on n'a pas assez... C'est une réflexion et une discussion et un débat populaire que l'on a depuis des décennies au Québec. Et on n'a jamais eu un gouvernement qui, à un moment donné, a dit « Ben écoutez, là, il n'y en aura pas de constitution où ce que tout le monde dit, hey, moi, je suis d'accord avec 100% de ce qu'il y a là-dedans. Il y a toujours des gens qui vont contester. Et donc, j'ai lu le projet de loi. Et moi, à savoir, est-ce qu'il est parfait? La réponse est non. Est-ce qu'il est perfectible? La réponse est oui. Est-ce que je préfère aller de l'avant puis dire, là, ça fait des décennies qu'on discute de cette affaire-là. On a débattu de ça à de nombreuses reprises avec des partis politiques qui touchent tout le spectre gauche-droite. On peut-tu aller de l'avant? Moi, je suis à l'aise avec 95% de ce qu'il y a dans ce projet de loi-là. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Avoir enfin notre première constitution en tant que nation. Puis si, ben, il y a d'autres gouvernements dans le futur qui veulent apporter des modifications, ben, ils pourront le faire, être élus en conséquence. Mais à un moment donné, là, de dire qu'on n'a pas assez consulté alors que ça fait 30 ans qu'on parle de cette affaire-là, moi, je trouve que c'est un petit peu... C'est un petit peu avoir une vision à courte portée, là.
Ouais, t'apportes un bon point. Mon seul point, moi, c'est que je trouve que la CAQ n'est pas légitimée de le faire à l'heure actuelle, de la façon...
Le projet de loi qu'ils amènent, Jeff, je veux dire, c'est l'aboutissement, encore une fois, de pas juste la CAQ, là, tu sais.
Ouais,
c'est
mais dans l'an...
d'un débat non, si c'était l'aboutissement de tout ce que les partis politiques disent depuis 30 ans, il y aurait un consensus à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas un.
Non, je ne suis pas certain que c'est pour ça qu'il n'y a pas de consensus. Les partis politiques se prononcent. Tu écouteras les consultations.
On a l'Assemblée nationale, on a la législation provinciale la plus consensuelle au Canada. On est capable d'avoir des consensus. Si c'était vraiment l'aboutissement de 30 ans de travail transpartisan, ça paraîtrait.
Non, moi, je ne suis pas certain. La joute politique, malheureusement, fait en sorte que du moment qu'il va y avoir un enjeu, du moment qu'il va y avoir un pépin, un article de loi avec lequel un des partis ne sera pas d'accord, il va voter contre sur l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, notre système est fait comme ça.
Ben non, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la Charte québécoise, a été adoptée de façon unanime à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, là.
Peut-être, mais ce que je te dis,
ça
moi,
prouve
c'est
qu'on
que...
est capable de le faire, justement.
Oui, ça prouve qu'on est capable de le faire. Est-ce qu'on est obligé d'attendre à chaque fois que ce soit à l'unanimité? Moi, je pense que non. Puis la raison, je veux dire, tu écoutes les consultations, rarement les critiques sont faites sur le contenu du projet de loi. Ce que tu entends depuis le début, c'est sur la forme, beaucoup plus que sur le fond.
Non, il y a beaucoup de critiques sur le fond aussi.
Il y a quelques critiques sur le fond.
J'étais là, j'en ai entendu.
Oui, il y a quelques critiques sur le fond, on en a parlé, puis il y a des éléments perfectibles. Mais sur le core, sur l'essence de ce qu'il y a là-dedans, j'ai pas entendu les partis politiques s'attaquer à l'essentiel, à l'essence, au cœur de ce projet de loi-là par rapport aux valeurs, par rapport à l'élément distinctif québécois. Il y a certains pans, certains détails.
Je pense pas que c'est un détail, là, dire
non,
par exemple
articles,
que le public a le droit
articles.
D'utiliser son argent pour contester des lois votées par 63 personnes à l'Assemblée nationale. Je pense pas que c'est un détail. Je pense que c'est très core aux principes démocratiques dans lesquels on vit.
Ouais, ça, on s'en est déjà parlé. Là. C'est pas nécessairement... tout blanc ou tout noir, là, c'est pas de dire que les gens pourront plus utiliser l'argent public. Là. C'est pas...
Ben oui, c'est ça pas... que ça dit, c'est l'argent public. Je veux dire, c'est ça qui est écrit dans le projet de loi. Je l'ai lu 20 fois, j'ai fait un mémoire là-dessus, je suis allé le présenter, c'est ça qui est écrit.
Vous êtes bons, les gars, quand vous débattez.
Moi, comme je vous dis, je suis à l'aise avec ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est ma position.
Je veux dire, si t'es à l'aise avec ça, si tu crois que le public québécois est à l'aise avec ça, je veux dire qu'on consulte le public québécois réellement, qu'on le mette dans une consultation référendaire pour de vrai, au lieu de le passer avec une simple majorité, malgré l'opposition de tous les partis.
Moi, je pense, quand tu regardes, par exemple, l'exemple du syndicat qui avait contesté la loi 21 devant les tribunaux en utilisant l'argent public alors que la majorité de ses membres sont en faveur, est-ce que tu me demandes si moi je suis d'accord avec le fait que ce syndicat-là ne puisse pas utiliser de l'argent qui a été qui est de l'argent public, mais s'ils souhaitent utiliser de l'argent qui provient d'une autre forme, d'une autre source, ils auront très bien le droit de le faire.
OK, mais c'est ça, c'est un exemple spécifique. Si tu veux qu'on parle des syndicats, c'est même pas dans ce projet de loi-là. Ça, c'est le projet de loi 3. Le projet de loi 1 empêche, par exemple, le Barreau du Québec, empêche le Conseil de la femme, empêche plein d'institutions de la société civile qui sont autonomes, qui sont indépendants, d'utiliser notre argent, là, l'argent du public québécois, pour contester des lois qui sont passées par l'Assemblée nationale par simple majorité. Je veux dire, je ne crois pas que ça, c'est un détail. Je pense que ça, c'est une question qui va au cœur même de c'est quoi la démocratie québécoise.
Et encore une fois, pour ce qui est de cet élément-là, comme je te dis, moi, je n'ai pas d'enjeu à l'améliorer, ce projet de loi-là. Je n'ai pas d'enjeu à ce que Puis, visiblement, le gouvernement est prêt à le faire. Ils l'ont fait avec l'article 29. Voyons voir pour la suite. Moi, je fais juste dire, on peut-tu aller de l'avant? Puis s'il y a un élément dans ce projet de loi-là qui ne fait pas l'affaire, le gouvernement, il y a une élection dans moins de 6 mois, là, qui va pouvoir faire une campagne électorale puis dire comment que lui, il va améliorer cette constitution-là. Mais sur 95%, je le répète encore une fois, pour moi aussi l'avoir lu, pour 95% de ce qu'il y a là-dedans, je suis à l'aise et je suis prêt à m'avancer à dire que l'essentiel des Québécois serait très à l'aise avec ce qu'il y a dans ça. Alors sur le fond, je suis d'accord. Sur la forme, non, je ne suis pas d'accord. Mais et sur le détail, et sur le 5%, sur l'amélioration, ben, que ce soit le gouvernement de la CAQ qui recule sur certains pans ou que ce soit le prochain gouvernement qui vienne apporter sa propre touche, moi, je suis bien à l'aise à ce qu'on aille de l'avant à un moment donné avec un texte de loi avec lequel je m'entends pour l'essentiel. Et comme je le disais, je pense que les Québécois sont au même endroit.
Ben, je suis d'accord avec toi qu'on a une élection qui s'en vient, mais je pense que si justement on voulait en faire un enjeu électoral, on pourrait. Il n'y a absolument rien qui presse. Et si la CAQ veut en faire un enjeu électoral, je vais leur mettre chapeau bien bas. Ils vont avoir fait la chose correcte à faire.
Non, en effet, moi, c'est un peu là, quand je parlais de légitimité du gouvernement, dans le fait qu'il n'y a plus de chef à l'heure actuelle, qu'on va avoir une première ministre ou un nouveau premier ministre élu le 12 avril. Je trouve que l'espace-temps n'est pas le bon. Le timing, pour dire en bon français, n'est pas le bon pour la CAQ. Farnell, est-ce qu'on se garde le projet de loi C-15 pour notre prochaine discussion?
Oui, ça va encore être d'actualité, puis je vois le temps filer. Là,
exactement, je vois le temps filer, parce qu'en même temps, je trouvais ça intéressant de prendre du temps, parce que là, on vient de parler de la Cour suprême qui dit à Donald Trump, « Hey, t'as pas tous les pouvoirs. » Du côté de la Constitution, il y a beaucoup de pouvoirs qu'on se donne en tant que gouvernement, puis je comprenais qu'avec C-15, le gouvernement fédéral aussi va se donner beaucoup de pouvoirs. Donc, je voyais une belle thématique, mais je voulais qu'on prenne le temps de l'aborder. Donc, on met ça à l'agenda pour vendredi prochain.
Oui, puis moi, je veux beaucoup remercier Lambert. Je sais qu'on a des échanges musclés, mais je veux rappeler tout le monde, on est des amis, on s'aime beaucoup. C'est toujours dans le respect.
J'adore.
Lambert est un homme intelligent que je respecte énormément.
C'est très réciproque. Yes. C'est toujours très agréable, messieurs. Go Canada, go!
Go Canada, go! La troisième période se lance à l'instant même. Dans un instant, Boulevard 102, on va aller parler avec Julie White, présidente d'Exportateurs Manufacturiers Canada, présidente pour la division Québec. On va parler évidemment de ces tarifs qui ont été annulés par la Cour suprême. Et on va également parler avec une mère de famille éplorée, c'est-à-dire Madame Suzy Langlois, qui a vu son garçon Gabriel Robillard pris avec des problématiques de santé mentale qui se dégradaient, perdre la vie dans une poursuite policière après s'être échappé d'une urgence psychiatrique. La coroner a blâmé sévèrement l'urgence psychiatrique. On va parler également avec elle. Mais avant la pause, circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire, présentement, il y a un ralentissement qui se crée sur Henri IV en direction nord. C'est entre Wilfrid Hamel et Charest présentement. C'était en raison d'un accident qui a eu lieu, mais tout est réglé pour le moment. Charest en direction est, présentement, c'est entre Robert Bourassa et Henri IV. Et Laurentien, direction sud, ça commence déjà à être pas mal compliqué. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, l'émission d'En Jase. On souhaite que dans un instant, après cette courte pause, on vous revienne avec un score de 2-2 entre le Canada et la Finlande.
On en jase jusqu'à 14h.